le magazine des Nations Unies.
Antonio Guterres sollicite la prorogation du mandat d'un an de la MONUSCO. Le successeur de Ban Ki-moon a présenté son rapport sur la RDC devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Les points saillants de ce rapport dans cette édition. Mission accomplie, la MONUSCO a transporté 11 500 générateurs de la CENI du port kényan de Mombasa aux 16 herbs de la RDC. La dernière livraison a eu lieu mardi dernier à l'aéroport international d'Njili. Enfin, l'UNESCO s'implique dans la requalification du système éducatif congolais. La première phase de la mise en œuvre du système d'information pour la gestion de l'éducation est un pas positif selon les observateurs. Les résultats ont servi d'échange lors d'un atelier à Kinshasa. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de UN Mag. Le secrétaire général des Nations Unies demande la prorogation du mandat de la MONUSCO. C'est donc dans un rapport qu'il a présenté devant le Conseil de sécurité. Alors Jean-Pierre Elali, bonjour. Merci d'être dans ce studio pour nous parler de ce rapport.
Bonjour Tina. Vous l'avez bien dit, ces récents rapports étaient présentés le vendredi 11 mars à New York et rendus publics seulement mardi dernier. Outre la demande sur la prorogation du mandat de la MONUSCO, ce rapport fait le point sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose les condensés de ce rapport, condensé fait mercredi dernier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies par les directeurs de l'info publique et porte-parole intérimaire de la MONUSCO, Charles-Antoine Bambara.
Il parle également des nouvelles zones de violence en RDC, notamment dans les provinces du Tanganyika et du Kasaï. Le secrétaire général parle ensuite de l'évolution de la situation au niveau régional et aussi de la situation des droits de l'homme, notamment depuis 2016, qui par rapport à l'année précédente 2015 a vu une augmentation du nombre des violations des droits de l'homme, une augmentation de 30%. Il fait des propositions d'aménagement de la MONUSCO avec entre autres le transfert d'un certain nombre d'employés de la MONUSCO de Goma vers Kinshasa. Monsieur Guterres a aussi parlé de la force de la MONUSCO qui continue à adopter des modalités plus souples, mobiles, dynamiques, vu la menace croissante des violences liées aux élections ou à la situation politique. Deux autres unités de police constituées seraient nécessaires pour Lubumbashi et Kananga. 36 nouveaux véhicules blindés de transport seront nécessaires pour améliorer la mobilité des unités de police constituées existantes, alors que cela n'entraînera aucune augmentation du nombre de contingents globaux sur le terrain.
Comme vous pouvez le constater, Tina, c'est fort des l'analyse des faits dans ces rapports que M. Guterres recommande au Conseil de sécurité des Nations Unies de prolonger les mandats de la MONUSCO.
Merci Jean-Pierre. Alors je vous retiens encore dans ce studio pour évoquer une autre actualité qui aura marqué les Nations Unies en RDC cette semaine. Elle s'inscrit dans le cadre de l'appui de la MONUSCO à la révision du fichier électoral de la CENI. La MONUSCO, nous le disions, a établi un pont aérien entre la ville portuaire des Mombasa au Kenya et 16 herbs ou villes de la RDC, avec comme objectif de transporter 11 500 générateurs fournis par la Chine. Mission accomplie donc, pourrait-on dire. Le dernier convoi assuré par deux avions Ilyushin 76 de la MONUSCO a donc été réceptionné mardi dernier par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et le président de la CENI. L'événement a eu lieu à l'aéroport international d'Njili. Jean-Pierre Lely, vous y étiez. Je propose alors aux auditeurs de Radio Capi votre reportage.
Les deux avions Ilyushin 76 ont atterri ce mardi avant midi à l'aéroport international d'Njili. Au bord de chaque avion, 360 générateurs et bien d'autres matériels électoraux. Au bas de la passerelle, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Mamadou Sidikou, Corneille Nanga, président de la CENI, et son adjoint Norbert Basengezi, ainsi que Yves Kisombe, vice-ministre aux affaires étrangères, représentant le gouvernement. Les autorités assistent au début du débarquement de la cargaison. Visiblement satisfait, le chef de la MONUSCO, Mamadou Sidikou, rappelle le soutien de la mission en ces termes.
En ce moment symbolique, vous nous recevons les derniers lots de générateurs de la CENI transportés par la MONUSCO depuis le port de Mombasa au Kenya. Et la MONUSCO apporte depuis le début de l'opération un soutien logistique avec la mise en place d'une flotte de 4 avions cargo, 2 Ilyushin 76 et 230 Hercules et 16 hélicoptères MI-8.
Marquant la détermination de la mission, Maman Sidikou annonce que l'apport des Nations Unies au processus électoral en RDC se poursuivra au prochain mandat de la MONUSCO.
Notre soutien ultérieur requiert à nouveau l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se réunira sur la RDC dans quelques jours. Nous travaillons pour un mandat plus large qui permettra au système des Nations Unies et à la communauté internationale de vous apporter leur appui aux élections à venir.
Pour sa part, le président de la CENI, après avoir rappelé le bilan à ce jour des opérations de révision du fichier électoral, salue le partenariat de la MONUSCO.
Les bateaux partiraient de la Chine vers Matadi, ça nous donnait un retard de 52 jours. Et la MONUSCO a fait un pont aérien. 40 rotations d'avions, gros porteurs. Chaque avion portant plus ou moins entre 30 à 35 tonnes.
Même sans les cloches, du côté du gouvernement, le vice-ministre Yves Kissombé s'est dit lui-même témoin des efforts de la MONUSCO.
Moi, en tant que vice-ministre des Affaires étrangères, je suis là pour constater et témoigner des efforts réels, mais qui sont traditionnels, de la MONUSCO. La RDC a besoin du soutien de la MONUSCO sur le plan organisationnel et logistique essentiellement.
La cérémonie se termine par la visite de l'entrepôt de la CENI, cédé par la Régie des voies aériennes.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le système d'information pour la gestion de l'éducation et de cartes scolaires, un sigle en sigle, un projet informatique mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale et de l'UNESCO, a servi d'échange au cours d'un atelier lundi dernier à Kinshasa. À cette occasion, des experts de différents sous-secteurs de l'éducation ont évalué les résultats de ce projet. Après son expérimentation dans les ex-provinces pilotes de l'Équateur et du Kassai occidental, Eladji Miessa Diop, chargé de programme à l'UNESCO, évoque ici les avancées, mais aussi les défis de ce projet. Il est interrogé par Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur Eladji Miessa Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé des projets à l'UNESCO. Nous venons d'assister à l'atelier de partage de résultats de la première phase de la sous-composante SIG et carte scolaire. Alors, la première question, Monsieur Diop, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces résultats en ce qui concerne justement les avancées?
Comme nous l'avons montré durant les différentes présentations, vous savez, le point de départ, toujours le point de repère, c'est l'atelier de 2013 qui s'est tenu à Caritas, qui a permis, avec l'appui des partenaires au gouvernement, d'adopter une vision. Donc la vision pour un système d'information pour la gestion de l'éducation unique, qui intègre l'ensemble des sous-secteurs de l'éducation. Mais un système d'information décentralisé, parce que la décentralisation avait commencé. Et vous savez, dans la Constitution de la République, la décentralisation est la forme adoptée pour le pilotage du système éducatif. Et donc, il fallait opérationnaliser la décentralisation dans la collecte et la production des données statistiques. Le troisième élément de la vision, c'était que le SUJ puisse utiliser les technologies de l'information et de la communication pour minimiser un certain nombre de contraintes. Et enfin, le SUJ devait être pérenne. Alors, partant de cette vision, nous avons pu, avec l'appui de la Banque mondiale, développer dans le cadre du projet de renforcement des systèmes de développement humain une sous-composante. Cette sous-composante SIG et carte scolaire qui devait être une opérationnalisation de la vision. Et donc l'UNESCO a eu la responsabilité d'apporter une assistance technique pour que d'abord le SIG soit unique, pour que le SIG soit décentralisé et que le SIG puisse utiliser les technologies de l'information et la communication.
Oui, justement, nous allons revenir sur l'implication de l'UNESCO. Merci. Est-ce que nous pouvons avoir les avancées qui ont été constatées dès 2013 jusqu'à aujourd'hui en 2017 et quelles sont les avancées sur ce projet-là?
La première avancée, c'est que nous avons pu en mettre en place un dispositif technologique donc, qui intègre à la fois des outils, donc des applications qui ont été développées pour faire la collecte avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, mais aussi développer des outils qui puissent permettre le traitement des données, le traitement informatique des données. Et enfin, nous avons développé un portail de reporting qui permet d'être en ligne et d'être sur le site du ministère de l'Éducation et qui permet à tous les utilisateurs de pouvoir aller sur le portail, consulter les données et faire eux-mêmes les tableaux avec des requêtes. Ça, c'est une innovation de taille parce que cela n'a pas été possible avec l'ancien système, parce que la base de données était une base de données Access qui nécessitait beaucoup de requêtes et avec des erreurs possibles avec l'utilisation de Excel. Alors que ici, nous sommes dans une base de données SQL Server qui permet l'intégration des bases de données aussi bien au niveau central que décentralisé. Et donc, nous avons une unique base de données avec SQL Server qui vous permet, avec des cubes OLAP et des requêtes, de pouvoir même créer vos tableaux. Et par exemple, quand vous voulez dans une province voir le nombre d'enfants, de filles âgées de 6 ans qui inscrits pour la première année, vous pouvez intégrer ces données et le tableau sont produits. Donc ça, c'est vraiment une avancée, alors qu'autrefois, c'est juste un annuaire de plus de 300 pages qu'on produisait, qui n'était utilisé que par quelques experts. À l'ère du numérique, il fallait développer des outils mis en ligne qui permettent d'accélérer la collecte et le traitement des données, raccourcir les délais, mais aussi améliorer, accroître la fiabilité.
Justement, lors de cet atelier, on a parlé aussi des contraintes ou même des défis que vous allez relever dans le futur.
Tout à fait. Vous savez, avec l'ancienne méthode, c'était des fiches de collecte qui étaient envoyées au niveau des écoles et remontées. Et il y a énormément d'écoles qui ne renvoyaient pas les fiches. Et à ce niveau, par rapport à la première campagne que nous avons menée en Équateur et au Kasaï, la question du taux de couverture a été vraiment un problème. Et aujourd'hui, nous avons tiré les leçons de la première phase et nous nous sommes dit que dans la deuxième phase, il faut développer un schéma de collecte qui puisse permettre quand même de minimiser le nombre d'écoles n'ayant pas retourné, parce qu'on va faire la saisie presque à leur porte avec les centres de regroupement, ce qui nous permettra de toucher le maximum d'écoles possible. La deuxième contrainte a été la question de la fourniture en électricité et la connexion Internet. Parce que vous allez au niveau de beaucoup de sous-divisions, il n'y a pas d'électricité et on était obligé d'utiliser des groupes. Et quand il n'y a pas d'électricité, la connexion Internet aussi est défaillante. Et
là, comment vous avez fait pour contourner la difficulté?
Voilà, aujourd'hui, nous avons mis la pression sur les experts qui ont travaillé pour nous pour développer un outil de collecte hors connexion. C'est-à-dire que vous avez besoin juste d'une connexion Internet pendant 10 ou 15 minutes pour télécharger l'application. Alors, quand vous téléchargez l'application, pendant 2 mois, vous pouvez faire vos collectes jusqu'à ce que vous retrouviez une connexion et vous synchronisez et toutes les données sont balancées sur la base de données. Cela veut dire qu'il y a une certaine autonomie qui est possible désormais dans la collecte sans qu'il y ait la connexion Internet.
Oui. Monsieur Diop, il y a une crainte aussi, c'est que nous avons remarqué lorsqu'il y a un projet ici en République démocratique du Congo, on commence bien mais on termine mal. En ce qui concerne la pérennisation de ce projet, est-ce que vous avez des stratégies que vous pouvez développer pour que ce projet qui est bienfaiteur pour la République démocratique du Congo soit pérennisé et approprié par les Congolais eux-mêmes?
Vous savez, moi j'identifie 3 aspects de pérennisation. Le premier aspect, le projet l'a réglé eux-mêmes. Nous avons engagé des experts qui nous développent des outils qui, même à leur départ, pourront continuer de fonctionner. À moins qu'il y ait un petit contrat de maintenance, mais qui ne nécessite pas une intervention tous les jours, mais au moins une ou deux descentes dans l'année nous permet de prendre en compte certains aspects.
Ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc il faut juste signer avec le cabinet un petit contrat de maintenance. Parce que aussi, c'était des outils informatiques, des logiciels qui ont été développés. On ne peut pas du jour au lendemain les maîtriser et tourner le dos. Donc, il nous faut juste un petit contrat de maintenance. Deuxièmement, nous avons pensé au fait que nous avons des outils, mais ce sont des humains qui travaillent là-dessus. Et on a mis en place un dispositif de renforcement de capacité qui permet une autonomisation de l'ensemble des acteurs, aussi bien au niveau central que provincial.
Notamment les informaticiens.
Donc, les informaticiens et les acteurs qui travaillent sur ces questions sont suffisamment formés, et vous l'avez vu tout à l'heure dans la démonstration, c'est eux-mêmes qui ont pris en main tout le processus, et ça, on va le continuer parce qu'ils sont d'ailleurs actuellement en train d'être formés. Le troisième élément de pérennisation, c'est qu'il faut mutualiser les ressources financières. Aujourd'hui, dans le budget de l'État, il est nécessaire d'inscrire des lignes et ou bien d'exploiter des lignes sur la collecte et le traitement des données. Mais en même temps aussi, que l'ensemble des partenaires qui interviennent puissent apporter dans la mutualisation une petite contribution permettant à l'État de pouvoir couvrir les besoins. Parce que si nous parvenons à inscrire ces activités dans les activités de routine au niveau des sous-divisions, au niveau des provinces et au niveau central, nous allons minimiser les coûts et donc la pérennisation sera réglée.
Oui. Un autre aspect de ces projets, c'est la carte scolaire et aussi de la géolocalisation. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus?
Tout à fait. Vous savez, le projet initial, c'était un projet système d'information pour la gestion de l'éducation et carte scolaire numérique. Dans l'entame, les données liées à la géolocalisation devaient nous venir d'un autre projet. Malheureusement, il y a eu des contraintes et ce projet-là n'a pas été mis en œuvre. Ce qui fait que donc l'outil de carte scolaire a été développé, mais nous n'avons pas encore les données géolocalisées. Aujourd'hui, je me réjouis que la CFF, qui est coordonnatrice du projet, au niveau du projet de renforcement de
la CFF,
c'est la cellule de financement en faveur des États fragiles, mm-hmm. qui est une cellule du ministère des Finances, nous informe que le budget est là et que même on peut développer des termes de référence que la DEP est en train de préparer, la direction d'études et de planification. Si nous parvenons à avoir des termes de référence pertinents et efficaces, avec un financement conséquent, nous pouvons mener la géolocalisation des écoles de l'ensemble du pays, des écoles, des établissements et des structures d'éducation non formelle. Nous en avons l'expertise, nous l'avons développée. Heureusement que la cellule d'appui au niveau de la primature nous a aussi parlé de son expertise dans le domaine. Et nous pourrons renforcer le partenariat dans ce domaine-là et aller dans le sens de la géolocalisation. Ce qui nous permettra de déboucher donc sur une carte scolaire avec des cartes thématiques, avec un système de planification et de micro-planification qui sera vraiment une bonne avancée pour la République démocratique du Congo.
Vous avez dit tout à l'heure que c'est une expérience unique au monde.
Mais tout à fait, parce que les experts que nous avons engagés pour développer ce dispositif nous ont confirmé que la saisie hors connexion sur smartphone, sur tablette et sur ordinateur n'a pas encore été développée ailleurs.
Donc, même pas aux États-Unis.
En tout cas, aux États-Unis, il y a la cartographie, il y a tous ces aspects. Mais saisir des données des écoles à partir du smartphone, nous n'avons pas encore connaissance de ça.
Une dernière question, M. Diop, pour ne pas prendre beaucoup de temps avec vous. Et quelle est l'implication de l'UNESCO dans ces projets?
Mais vous savez, le projet, déjà, dans sa planification, dans la première phase, ne concernait que deux provinces traditionnelles, de l'Équateur et du Kasaï occidental. Alors l'UNESCO, qui quand même est une organisation au service des États membres, a jugé nécessaire, compte tenu du fait que le système des Nations Unies était en train d'avoir un mouvement vers l'Est, l'UNESCO a pris la responsabilité d'impliquer, de prendre en compte le Nord Kivu et le Sud Kivu dans le projet. Avec un financement de $500,000, nous avons engagé tous nos personnels et les salaires des personnels pour être mobilisés dans ce domaine. Mais nous avons aussi engagé les structures internationales qui travaillent avec l'UNESCO. Par exemple, l'Institut international de la planification de l'éducation et aussi l'Institut des statistiques de l'UNESCO qui donc apportent leur appui sur la base d'une contribution technique des experts qui travaillent dans ces domaines-là.
Vivialise,
c'est un cabinet d'experts que nous avons contractualisé. Nous avons lancé un marché international à partir de Paris et Vivialise a gagné le marché et nous nous réjouissons vraiment du partenariat que nous avons avec eux parce qu'ils nous permettent d'avoir des avancées.
Missa Diop, Radio Capi vous remercie beaucoup pour avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Rendons-nous tout d'abord dans le Congo et le Kwilu avec la FAO, où nombre d'activités de développement socio-économique ont été réalisées depuis 2015 dans ces deux provinces de l'ex-Bandundu. Et c'est dans le cadre des clubs d'Imitra, notamment dans les domaines du changement climatique, des infrastructures scolaires, l'aménagement des sources d'eau, la réhabilitation des pistes, l'assainissement et la santé communautaire. Une évaluation de ces activités a été faite du 3 au 7 mars dernier à Kenge et à Kikwit. C'était au cours d'un atelier des organisé par la FAO et auquel ont pris part les membres des clubs d'Imitra, les délégués des radios communautaires, les autorités coutumières locales, ainsi que d'autres acteurs étatiques et ceux de la société civile. Rendons-nous cette fois-ci dans le Tanganyika où la section d'appui à la justice et à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Kalemi a apporté un appui technique et logistique à la CENI afin que l'opération d'enrôlement des détenus se déroule convenablement. Ceci pour permettre aux détenus de la prison de Kalemi de jouir de leurs droits civiques et politiques en général et du droit d'élire et d'être élu en particulier en application des dispositions de l'article 5 de la loi électorale en vigueur en RDC qui énumère les conditions à remplir pour devenir électeur.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Viviane Van de Peer, un chef de cabinet du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et envoyé ce dernier à Popocabacá, une bourgade située à 200 km au sud-est de l'aéroport international d'Ndjili, dans la nouvelle province du Kwango. En fait, Madame Viviane était le vendredi 11 mars à la tête d'une délégation qui a convoyé par hélicoptère de la MONUSCO les kits électoraux, essentiellement des générateurs, en prélude des opérations d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays difficile d'accès. Jean-Pierre Lalicoco lui a tendu son micro sur place à Popocabacá. Suivez leur entretien.
Madame, bonjour. Merci d'être venue ici à Popocabacá. Et vous êtes l'envoyée du représentant spécial. Avant tout, quel est le but de votre présence ici, madame?
What is the goal of your visit today?
We are showing the diplomats that are with us and the journalists that are with us.
Alors, nous sommes venus ici pour montrer aux diplomates qui sont avec nous et aussi à vous, journalistes, la nature du partenariat qui existe entre la CENI et la MONUSCO. L'idée, c'est de pouvoir livrer le matériel pour la révision du fichier électoral au plus vite, d'avoir terminé la partie MONUSCO avant la fin du mois de mars, et au niveau national, terminer les opérations au 31 juillet. Et je suis vraiment ravie de voir l'enthousiasme avec lequel la population aujourd'hui nous a accueillis. Et nous sommes sur de bons rails pour le processus électoral.
Oui, vous êtes ravie de l'enthousiasme de la population. Mais madame, il y a une difficulté ici, c'est l'accès. Et comment est-ce que vous, la MONUSCO, vous allez vous y atteler pour essayer d'aider la CENI et le peuple congolais dans le reste des pays où il y a des difficultés de route?
This is why MONUSCO is here, to provide logistic support, especially in hard-to-reach locations. This is why we came here by helicopter today. I'm sorry about all the dust that it put on you and on your equipment. So we have a lot of extra equipment that we hired specifically to help the CENI to get ready with the voter registration. And
c'est la raison pour laquelle nous sommes là à la MONUSCO, justement pour aider à déployer le matériel dans les antennes difficiles d'accès. C'est pour ça que nous sommes venus ici aujourd'hui en hélicoptère. Et d'ailleurs, je voudrais m'excuser parce que ça a fait beaucoup de poussière et pour nous et pour vos équipements. Mais voilà, c'est parce que une fois encore, nous voulons que le processus d'enrôlement se fasse dans les temps et nous terminerons notre part à la fin du mois de mars et ensuite c'est la CENI qui continuera le travail avec les opérations d'enrôlement elles-mêmes.
Un petit message, après avoir vu l'enthousiasme ici au niveau de la population de Popocabacá, un petit message de la part peut-être du représentant spécial.
Yes, it is so important to vote. Go and register. Everybody who is eligible to register should register and you should all vote. It's your future.
Oui, mon message, c'est que vous devez, toutes les personnes qui sont en âge de voter, qui sont éligibles, doivent aller s'enregistrer pour pouvoir ensuite aller voter. Vraiment, on appelle tout le monde à aller s'enregistrer et pouvoir après voter pour la personne qu'elles voudront voir à la tête de ce pays.
Merci beaucoup, madame.
Merci. Matam Domingue.
La MONUSCO Lubumbashi a procédé mardi dernier à la remise des bâtiments commissariats de la police à Mitwaba. Il s'agit d'un projet à impact rapide dont le coût est évalué à plus de 29 000 dollars américains. Ce projet vise à améliorer les conditions de travail de la police dans ce territoire en proie à l'insécurité. Denise Maheo pour le reportage.
Il est midi ce mardi à Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga. Une délégation du bureau de la MONUSCO Lubumbashi, conduite par le chef de la section des affaires politiques, est accueillie sous une tente blanche. Nous sommes devant deux locaux et une annexe nouvellement construite. Ce sont des bureaux du commissariat de la police de Mitwaba. Dans son discours, le commandant de la police, le commissaire principal, Banza Mwine Lubembe, présente les locaux.
Ces locaux, à l'intérieur, une salle d'attente, un secrétariat, une salle de réunion, un bureau de commandement, une cellule d'archives, une toilette annexe, un cachot pour hommes, un cachot pour femmes, une cellule de bureau de saisie, une toilette pour hommes, une toilette pour femmes et une douche.
L'administrateur assistant du territoire de Mitwaba, quant à lui, interpelle la police sur son rôle à jouer avant de couper les rubans symboliques. Le représentant de l'unité de la police des Nations Unies se félicite d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de travail de la police à Mitwaba. De retour de Mitwaba, Denise Mayo, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Oui, c'est M. Roberto Mzoa Milimani. Et pour laisser le gouvernement faire son travail, M. Charles Bambara, le porte-parole a tort de dire que ces deux agents experts ne sont pas des agents de la MONUSCO. Et pour vous de la MONUSCO, il faut combien de temps pour savoir que quelqu'un travaille en collaboration avec vous?
C'est lié à la situation à Kananga, vous dites, les disparitions? Oui, bon, nous avons dit très clairement qu'il s'agit des deux membres du groupe des experts des Nations Unies sur la RDC qui sont liés au comité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, ce sont des agents des Nations Unies, c'est un point. Donc, qu'ils appartiennent, oui ou non, à la MONUSCO, leur titre est vraiment très clair. Ce sont des agents du système des Nations Unies. Je crois que ça devrait vous suffire. Et j'ai insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés par leur interprète et puis trois autres accompagnateurs qui étaient des conducteurs de moto-taxi. Et notre action, l'action donc des Nations Unies, de la MONUSCO et de toutes les forces de sécurité présentes sur le terrain, c'est de rechercher toutes ces personnes-là. Nous ne recherchons pas seulement, uniquement les agents du système des Nations Unies, nous recherchons tous ceux qui sont portés disparus.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Bonjour, je m'appelle Billy Van Lutumba Kanyema, marié, père de 4 enfants. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, je me mets sur un banc de classe pour la première fois de ma vie dans la cité de Kambove. C'est dans l'actuelle province du Haut-Katanga. Puis, je poursuivrai mon école primaire et secondaire à Likasi, à l'Institut Oustawi. Permettez-moi une incise à ce niveau pour passer un bonjour à tous les Adousta. Vous allez me demander, Adousta c'est quoi? C'est les anciens Adoustaoui qui sont éparpillés à travers le monde entier et vaillants professeurs de cette école élite. L'humain est monté, ils savent de quoi je parle. Je finis par décrocher mon diplôme d'état en option biologie-chimie en Mbujimayi. Un certain 31 juillet 2004, l'Institut supérieur pédagogique de Mbujimayi me décernera mon diplôme de licence en pédagogie appliquée, option biologie. Voilà ce qui est de mon cursus scolaire et académique. Pour mon parcours professionnel, je dirais que j'intègre pour une première fois une structure professionnelle en 1997, quelques années juste après avoir décroché mon diplôme d'état. Après avoir longtemps nourri l'idée de me voir en train de présenter un journal parlé comme Edmond Sadakar, que plusieurs d'entre nous connaissent très bien, il s'agit d'un journaliste de la RFI, Radio France Internationale. Je disais donc que j'intègre la chaîne de radio-télévision Kassai Horizon en juillet 1997, une des premières chaînes privées du pays. Là, on est en Mbujimayi. Je peux même dire que c'est à cette radio que j'acquiers les rudimentaires des médias. Je considère cette maison comme un centre d'apprentissage car c'est là que j'ai consolidé la prise de vue avec une caméra que j'avais déjà débutée à la maison quand j'avais encore 16 ans. C'est là, aux côtés du propriétaire de la chaîne qui a une forte expertise en télécommunication, que j'apprendrai la prise des sons et la mise en onde avant de passer à l'animation. Cependant, compte tenu de certaines considérations, j'ai dû quitter la cachette pour passer dans 2 autres médias privés, toujours en Mbujimayi, où j'ai fui animateur d'émissions des jeunes, présentateur des journaux parlés et télévisés à la télévision catholique du diocèse de Mbujimayi. C'est la télé fraternité, la RTF. Et en 2005, avec l'ouverture du bureau de la MONUSCO au Kassai Oriental, j'ai passé mon test et j'ai fui retenu des 22 candidats en liste parmi les 4 journalistes pour la radio Kapi Mbujimayi en août 2005. Depuis 2005, j'œuvre pour cette radio qui m'a permis de me professionnaliser davantage dans le métier avec diverses formations en journalisme et la découverte du fin fond de la République démocratique du Congo, car j'ai sillonné plusieurs contrées du pays pour réaliser des reportages. Depuis 2011, j'ai rejoint la rédaction centrale de Kinshasa où j'évolue au desk langue, et depuis une année, j'ai la charge de la présentation des actualités internationales. Comme tâche quotidienne, je suis du shift soir, j'arrive aux alentours des 13h30 au bureau et à 14h je participe au conseil de rédaction. Après le conseil de rédaction, je passe maintenant à mes tâches de la journée, en commençant d'abord par la navigation sur les sites d'information où je dois collecter les différentes dépêches des différentes agences afin de préparer les tranches des synthèses d'actualité internationale. Puis je passe à la rédaction et dès que je termine la préparation de mes 2 livraisons, je commence la traduction des nouvelles du pays. Mon temps libre je le passe souvent à la maison avec les enfants. On s'amuse avec les enfants à la télé et à d'autres lieux au niveau de la maison et surtout avec notre chien. Préférence pour ce qui est de la nourriture, c'est une préférence frites à poisson. Mais en tant que Congolais, Bantou, c'est le moteta, ici on appelle bilolo, poisson frais avec le foufou. Et le sport, c'est le football, volleyball et tennis de table. Mais pour moi-même, en temps libre, je fais le taibo. Il s'agit d'une gymnastique avec des exercices physiques. Musique, je préfère les anciens succès congolais avec beaucoup plus Luambo, Madilou et les autres belles compositions de la rumba congolaise. Comme projet d'avenir, on n'est pas éternel à la radio. Les institutions restent et les personnes passent. Acquérir encore plus d'expérience sur le plan international, sinon j'évoluerai en solo dans mon pays avec des activités privées. Voilà un peu ce que je peux dire sur ma personne.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Trois dates à retenir dans votre agenda de la semaine. Donc prenez votre calepin. Le 21 mars, notez que c'est la journée internationale des forêts. Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Et le 23 mars, la journée mondiale de la météorologie. Merci d'avoir suivi cette émission UN Max, c'est déjà la fin. Elle a été coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco qui est également au reportage et à la réalisation. Merci à Denise Maheo pour sa participation, à Sylvain Matundu qui nous a aidé à la mise en onde. Moi c'est Tina Salama, j'étais à la présentation. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est bien simple, vous allez visiter notre site internet, le www.radiocalpi.net, c'est le site de la Radio Capi. Alors on se dit à très bientôt sur nos antennes et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Excellent dimanche chez vous. Ciao. We'll be right back.